Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 4 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord, les titres du journal de ce mardi. La présidente du comité international de la Croix-Rouge affirme que l'histoire se répète au Darfour, au Soudan, après les informations faisant état de massacres lors de la chute de la ville d'Al-Fasher aux mains des forces de soutien rapide la semaine dernière. La décision du Parti national d'abandonner leur engagement de neutralité carbone n'a pas convaincu Barnaby Joyce de rester au sein du parti. Et puis les analystes ont écarté la possibilité d'un nouvel allègement des prêts hypothécaires de la part de la Reserve Bank ce mardi. Et on passe au journal. La présidente du comité international de la Croix-Rouge affirme que l'histoire se répète au Darfour, au Soudan, après les informations faisant état de massacres lors de la chute de la ville d'Al-Fasher aux mains des forces de soutien rapide. La semaine dernière, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique que des centaines de civils et de combattants non armés pourraient avoir été tués lors de la prise de la ville. Des témoins ont décrit des combattants des FSR séparant les hommes, des femmes et des enfants, des coups de feu retentissant ensuite. Les FSR nient avoir fait de mal à des civils. La présidente du CICR, Miyana Spoljaric, qualifie la situation d'horrible.
It's atrocious what we hear from the people that we speak to, and it repeats what I saw already more than 2 years ago when I was in Chad at the border to Darfur. I mean, it's history repeating, and it becomes worse every time a place is taken over by the other party.
À Istanbul, la Turquie a accueilli un sommet consacré à la proposition de création d'une force internationale conformément au plan des 20 points de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Parmi les participants figuraient les ministres des Affaires étrangères d'Indonésie, du Pakistan, d'Arabie Saoudite et de Jordanie, ainsi que des représentants des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les participants s'étaient accordés sur le fait que toute décision relative au déploiement de troupes devait être prise une fois le cadre établi.
ISF'in görev tanımı.
What will the International Stabilization Force in Gaza mandate and authority be? Countries will largely decide whether to send soldiers to Gaza, mostly based on that. I believe it would be more difficult for countries, who will send them, to deploy troops if the mandate conflicts with their own principles and policies.
Zor olacağını düşünüyorum.
La frustration grandit à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, où les Palestiniens estiment que l'aide humanitaire, même distribuée au compte-gouttes, est insuffisante. Des foules de personnes déplacées par la guerre israélienne contre le Hamas font la queue pour recevoir un colis contenant de l'huile, du riz et des haricots. Un homme a déclaré à l'Associated Press qu'ils attendaient ces vives depuis le début du cessez-le-feu avec Israël le 13 octobre dernier. Oxfam indique que des stocks de biens essentiels d'une valeur de 76 millions de dollars australiens sont encore entreposés à la frontière de l'enclave. Le bilan du séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter en Afghanistan s'élève désormais à 20 morts selon les talibans. L'Institut d'études géologiques des États-Unis indique que l'épicentre se situait à 28 km de profondeur près de Mazar-e-Sharif dans le nord de l'Afghanistan. Des centaines de personnes ont été blessées et la mosquée bleue, monument historique de la ville, a été endommagée. Ce séisme survient 3 mois seulement après un autre tremblement de terre de 6,0 sur l'échelle de Richter dans l'est du pays qui avait fait plus de 2000 victimes. En Australie, les analystes ont écarté la possibilité d'un nouvel allègement des prêts hypothécaires de la part de la Reserve Bank ce mardi. Face à la reprise de la hausse de l'inflation, la plupart des économistes prévoient que la Reserve Bank maintiendra son taux directeur à 3,6% lors de l'annonce de sa décision cet après-midi. Richard Holden, économiste en chef des experts comptables, affirme que la forte hausse inattendue de l'inflation la semaine dernière laisse penser que la Reserve Bank maintiendra sans aucun doute ses taux inchangés. Erin Patterson, reconnue coupable d'un triple meurtre, a fait appel de sa condamnation pour avoir empoisonné 3 membres de sa famille avec des amanites phalloïdes. Ses avocats ont déposé des documents auprès de la cour d'appel du Victoria. Les motifs de l'appel n'ont pas encore été divulgué. En septembre, Patterson a été condamné à une peine minimale de 33 ans de prison pour le meurtre de ses beaux-parents, Don et Gail Patterson, et de la sœur de Gail, Heather Wilkinson, ainsi que pour la tentative de meurtre de son mari, Ian Wilkinson. Ses avocats avaient déjà annoncé leur intention de faire appel et le directeur des poursuites publiques du Victoria a confirmé qu'il demanderait une peine plus lourde. Une proposition de loi parlementaire a été présentée au Parlement fédéral. Elle vise à interdire aux partis politiques et aux candidats d'utiliser le processus de vote par correspondance pour collecter des données personnelles. La loi électorale du Commonwealth autorise les partis politiques à combiner les votes par correspondance avec du matériel électoral afin de collecter les informations personnelles des électeurs australiens et potentiellement de les revendre à des tiers non identifiés. La députée indépendante Kate Cheney estime que cette pratique doit cesser.
People don't know that they are giving their personal information to political parties. And because political parties are not covered by the Privacy Act, there is no limit on what they can do with that data. They can use it for campaign materials, but they could also potentially sell it. And we have no idea if that's what's happening. My bill is a simple fix that removes political parties from that process and says that only a voter themselves can post that form to the AEC.
6 mois après son élection, le Premier ministre affirme que son gouvernement renforce le système de santé en élargissant l'accès aux consultations médicales gratuites. De nouvelles mesures entrées en vigueur le 1er novembre facilitent l'accès à une consultation médicale gratuite. Les incitations financières pour les médecins généralistes à pratiquer le bulk billing ne concernent plus seulement les titulaires d'une carte de réduction ou les enfants de moins de 16 ans, mais s'étendent désormais à tout patient éligible à Medicare. Anthony Albanese estime que ces changements vont bénéficier à de nombreuses personnes.
When you get sick, you'll get the care that you need, not on the basis of the size of your wallet or your bank balance, you'll get it on the basis of need. That is a fundamentally proud element of who we are.
La décision du Parti national d'abandonner leur engagement de neutralité carbone n'a pas convaincu Barnaby Joyce de rester au sein du parti. Le député dissident a déclaré avoir encore des questions à poser. Barnaby Joyce avait fait part de son intention de quitter les nationaux, frustré par l'objectif de neutralité carbone, mais il a indiqué sur Channel 7 qu'il devait encore discuter avec ses collègues avant de se prononcer sur son avenir. Et puis le prix, un mot de culture plutôt, avec le prix Femina décerné à Natasha Apana pour son livre « La nuit au cœur ». Précision de Margot Ratezic pour Radio France Internationale.
Et on connaît la lauréate du prix Femina. Il s'agit de Natacha Apana pour son roman La nuit au cœur, publié chez Gallimard. L'autrice est également en lice pour le Goncourt qui sera annoncé ce mardi. Ce livre primé est en effet l'un des incontournables de cette rentrée. Catherine Fruchon-Toussaint.
Plébiscité par la presse et les libraires, le nouveau roman de Natacha Apana ne laisse personne indifférent, ni par son écriture, ni par son sujet, puisque La nuit au cœur retrace le martyre de trois femmes brutalisées par leurs compagnons et qui parfois meurent sous leurs coups. Un texte percutant sur le féminicide, où l'autrice réussit à entrelacer trois histoires de souffrance, tout en y glissant des nuances, à l'image de la première phrase où elle écrit « Ils ne sont pas entièrement mauvais », mais trois parcours où peu à peu, la nuit noire prend la place de l'amour. Un roman du réel qui s'inscrit dans la continuité de l'univers que Natacha Apana dissèque depuis une vingtaine d'années dans ses livres, la violence des hommes, présente partout, de l'île Maurice où elle est née, à la France, mais aussi dans le monde entier. Une fiction brûlante qui avait déjà trouvé sa place dans le palmarès des meilleures ventes, mais qui, avec cette récompense littéraire, aura une plus grande visibilité. En moyenne, le Femina se vend à 33 000 exemplaires.
Les pluies en continu attendues avant la Melbourne Cup devraient avantager les favoris Half Yours et Al Rifa à Flemington cet après-midi. Le bureau de la météo prévoit une légère éclaircie avant le départ de la course à 15h avec 24 chevaux en lice. L'entraîneur vedette Chris Waller va aligner 5 chevaux parmi les 24 engagés dans la Cup, dont les favoris Valiant King et Buckaroo. Il se dit serein quant aux conditions de la météo. Calvin McEvoy, co-entraîneur de Half Yours, explique que le cheval apprécie les terrains humides et qu'il a particulièrement bien performé sur un terrain lourd lorsque l'eau s'infiltre dans le sol. Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, 29 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Et les averses. Hobart, 17. Canberra, 13. Sydney, 25. Brisbane, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 26 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. h 12 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de François Vantôme.
Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des sports de ce lundi 4 novembre avec une actualité bien chargée, rugby, football, tennis et bien d'autres. On commence avec du rugby. L'Angleterre s'impose sans briller contre l'Australie pour ouvrir la tournée d'automne. L'Angleterre, longtemps en difficulté, s'en est sortie en fin de match grâce à son banc pour remporter le premier match de la tournée d'automne 25-7 ce samedi à Twickenham. Dans un des classiques du rugby, les joueurs de Steve Borthwick ont trouvé la solution grâce à un énorme Alex Mitchell et ont résisté à la domination des Australiens qui avaient pourtant Harry Potter à la baguette. Les Wallabies continuent leur jeu de possession mais perdent systématiquement le défi physique. Les Anglais ont marqué 4 essais. Avec pragmatisme, le 15 de la Rose enchaîne une 8e victoire consécutive et prend sa revanche contre les Wallabies un an après leur défaite dans la même enceinte. On écoute l'analyse du coach australien Joe Schmidt, qui reste cependant positif et optimiste.
If we don't get to six in the world, all we've got to do is just keep building, because you can still be a great chance and not be six in the world, but that would be the ideal for us. But we've got to be able to build over the next 2 years and not be afraid of playing one of the big guns. I think having Having had some big wins this season so far, I think we've demonstrated ability with a full squad that we can knock teams over, and we've got to build the depth in behind that squad. So this tour is really part of that. Italy will be very tough. They were one score away from England at half time last time they played them. They're a good side, and they're coached by a good friend of mine in Gonza Caseta, and I know that Gonza is a very good coach, and he will have them primed.
Samedi prochain, l'Angleterre recevra les Fidji, tandis que l'Australie, adversaire du 15 de France le 22 novembre, jouera en Italie. Grâce à sa victoire sur l'Australie samedi, l'Angleterre double la France au classement World Rugby pour prendre la 4e place. Le classement est toujours mené par l'Afrique du Sud devant la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. L'Australie, quant à elle, pointe à une 7e position. Mais les hommes de Fabien Galthié vont débuter leur tournée d'automne ce samedi face aux champions du monde sud-africains et auront donc l'occasion de glaner de précieux points. Ce sera un gros test pour les Bleus. Marathon de New York avec la domination kenyane. La 54e édition du Marathon de New York a eu lieu ce dimanche. Plus de 55 000 coureurs se sont élancés dans les rues de la Big Apple. Des coureurs légendaires avaient fait le déplacement et ce sont finalement les Kenyans Hellen Obiri et Benson Kipruto qui se sont imposés. Obiri, qui remporte le marathon de New York pour la 2e fois, devient la première femme à passer sous la barre des 2h20 à New York. Avec un temps de 2h08 et 9 secondes, le Kenyan Kipruto, qui avait fini 3e lors des Jeux de Paris en 2024, a remporté son premier marathon de New York. On retiendra aussi que ce marathon était le dernier de la légende Eliud Kipchoge. Le double champion olympique 2016 et 2021 participait pour la première fois à l'épreuve new-yorkaise. Il s'est fait distancer par ses concurrents et a fini à la 17e place avec un temps de 2h14 minutes et 26 secondes. À bientôt 41 ans, le Kenyan souhaite se lancer dans de nouveaux défis et faire rêver, inciter les gens à courir pour le plaisir. Il va ainsi se lancer le défi de courir en Antarctique. Tennis, Jannik Sinner enchaîne les records. L'Italien a remporté la finale du Masters 1000 de Paris avec une 26e victoire consécutive en indoor. On le savait, Jannik Sinner est le spécialiste du tennis pratiqué sur dur, mais il est carrément imbattable sur dur en indoor. L'Italien a remporté 20 de ses 23 titres sur cette surface et 9 fois quand l'événement se déroulait dans une enceinte fermée. Il a en effet encore triomphé ce week-end en s'imposant aisément dans la capitale française. L'Italien a remporté tous ses matchs en 2-7, même un Félix Auger Aliassime en grande forme n'a rien pu faire face au grand roux en finale 6-4-7-6. Autre stat significative, Sinner a remporté pour l'occasion une 26e victoire consécutive en indoor, ce qui lui permet de dépasser Pete Sampras, 25, et de se rapprocher du trio Novak Djokovic, 35, Roger Federer, 33 et Ivan Lendl, 32 victoires consécutives. On écoute l'Italien lors de sa conférence de presse d'après-match.
Yeah, it was a very high quality match. You know, he was serving incredibly well when I had a couple of break chances in the second set, but has been an amazing run, Vienna and here, super happy, and of course now we are looking forward to Turin, but also want to enjoy this moment, it's a very special day.
Football, retour sur la Ligue des Champions, Luis Enrique fait l'éloge du Bayern de Vincent Kompany. Alors que le PSG s'isole en tête du championnat de France, suite à sa victoire 1-0 contre Nice, devant Marseille, qui s'est lui aussi imposé sur le même score à Auxerre, une tâche plus ardue attend les Parisiens. Ce mercredi matin aura lieu certainement le plus bel affrontement de ce début de saison en Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Bayern Munich, soit les deux équipes les plus en forme au niveau européen. Le Bayern de Vincent Kompany est irrésistible. 15 victoires, 51 buts marqués pour 10 encaissés en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Le rouleau compresseur du Bayern écrase tout sur son passage depuis le début de la saison 2025-2026. Mais au Parc des Princes, le champion d'Europe en titre compte bien se faire respecter. Les deux équipes comptent 9 points en 3 matchs, ce qui leur permet de trôner au sommet du classement de la phase de la Ligue, à égalité de points avec l'Inter Milan, Arsenal et le Real Madrid. Le coach espagnol des Parisiens ne mâche pas ses mots et a déclaré « Nous sommes les deux meilleures équipes d'Europe ». On l'écoute.
Si on parle des résultats, des schémas qu'ils ont fait les derniers 15 matchs, c'est incroyable. Nous avons de la difficulté de gagner 2, 3, 4 matchs consécutifs. Si tu penses à 15 matchs, c'est incroyable. Mais si on parle du match de demain, au Parc de Prince, avec notre supporters dans le stade, avec cette ambiance que on crée chaque match, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance, pour chercher à surmonter leur pression, et je pense que ce sera un match pareil à ce qu'on a joué le dernier été.
Enfin, un hommage à Charles Coste, le doyen des champions olympiques, est mort à l'âge de 101 ans. Médaillé d'or lors des Jeux olympiques de Londres en 1948 pour l'épreuve de poursuite par équipe en cyclisme sur piste, Charles Coste, 101 ans, était le plus vieux champion olympique encore en vie. Il avait obtenu ce titre aux côtés de Serge Blusson, Pierre Adam et Fernand de Canali. À ce titre, il avait été l'avant-dernier porteur de la flamme au JO de Paris 2024 avant de passer le relais au duo Teddy Riner-Marie-José Pérec. Après son titre en 48, Charles Coste était devenu cycliste professionnel sur route, disputant deux fois le Tour de France et trois fois le Giro. Il avait aussi reçu la Légion d'honneur des mains de Tony Estanguet en 2022, alors à la tête de l'organisation des Jeux de Paris. C'est la fin de ce journal des sports sous le programme en français de Radio SBS.
Et bientôt 25 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Focus sur la semaine politique, le Parti national a officiellement retiré son soutien à la politique australienne de neutralité carbone d'ici 2050 à l'issue d'une réunion à Canberra le week-end dernier. Un dossier de SBS News de Deborah Groke. Cette décision de neutralité carbone pourrait mener à une confrontation entre les deux partis de la coalition. Les libéraux revoient également leur stratégie climatique après leur défaite électorale de mai dernier. Le chef du parti, David Littleproud, pense que si une meilleure solution existe, le parti devrait l'explorer.
Domestically, we've lost over 7 million hectares of agricultural land and we'll lose another 5 million hectares of Australian agricultural land on this trajectory that Labor's taking us. We need to understand if there's a better way, then we should explore it.
I'm proud to say that our party room has got to a unanimous position of scrapping net zero commitments by 2050. This is about bringing common sense back to climate and energy policy. This is about saying we're going to live up to our commitments internationally. We're going to do that sensibly, but we're going to do what they're doing, at their pace, not streak ahead.
La décision des nationaux a déjà suscité de vives critiques de la part du Parti travailliste. Le ministre du changement climatique, Chris Bowen, a réagi.
The National Party is betraying future generations, but they're also betraying farmers and people in regional communities who can benefit from this massive transformation. They seem to be stuck in the past, and despite any encouragement we can give them in the Parliament, they seem to be determined to stay there.
Le Premier ministre Anthony Albanese a également critiqué cette mesure.
We act nationally. We've submitted our NDC, our nationally determined contribution, as well to the UN for 2035. It's an ambitious but achievable target, and it's in our interests for that to occur, just as it's in the interests of Australia to encourage global action.
La sénatrice Sarah Hanson-Young des Verts a également donné son avis.
The Australian people simply won't be copying such a ridiculous policy from a party that thinks it should be in government. And our Pacific neighbours are going to be furious that they hear that this type of ridiculous snake oil of a policy is being promoted by the National Party and indeed the coalition.
La question maintenant est de savoir si les libéraux vont suivre le Parti national lors de leur réunion de vendredi prochain. La politique de neutralité carbone est devenue un sujet de discorde au sein de la coalition fédérale suite à sa défaite aux élections de mai dernier. La décision du Parti national de se retirer des objectifs formels d'émission risque de rendre furieux certains libéraux modérés qui souhaitent maintenir leur engagement envers la neutralité carbone d'ici 2050. Angie Bell, députée libérale, a déclaré sur Sky News qu'ils entendaient prendre leur propre décision.
We're not beholden to the National Party. We are the Liberal Party. I sit in the Liberal Party room in Canberra and we'll go through our processes, which your viewers would understand would be different to the National Party processes. And we'll come to that in due course when we've done the work and when we understand where our policy needs to be.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Vous écoutez le programme en français.
Vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio SBS la nouvelle High Commissioner de Maurice en Australie, Sarojini Srinivasan. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël, merci de m'accueillir chez toi.
C'est votre premier déplacement à Melbourne en tant que High Commissioner et on va parler de l'Africa-Australia Dialogue Initiative qui a eu lieu le jeudi 30 octobre. Parlez-nous un petit peu de cette réunion.
Eh bien, encore une fois, ça a été organisé par Di Fleming, mon consul honoraire, et une autre collègue. Et je trouve que l'initiative est vraiment très, très bonne et se passe à un moment où c'est vraiment important de porter un peu plus d'attention à ce qui se passe dans les pays africains. Je trouve que on n'en parle pas assez et ça a été une très belle initiative et qui a permis un dialogue, comme ça s'appelle. C'était un très grand succès, je trouve.
Et le thème de cette année, c'était « Enterprise and Development ».
Exactement, exactement. Et je crois que ce qui se passe dans les pays africains, c'est très peu connu ici en Australie et ce serait bien que cette information passe mieux, qu'il y a beaucoup à faire du côté trade, investment en Afrique. On ne s'imagine pas parce qu'on ne sait pas le développement qui s'est passé les derniers temps en Afrique. Et même aussi à Maurice, d'où je viens moi, le rôle que mon pays aussi peut jouer dans ce dialogue entre l'Australie et l'Afrique peut être très très important.
Et donc, c'est pas la première fois que Maurice est l'un des pays organisateurs. Et il faut aussi peut-être rappeler aux gens que Maurice, c'est le gateway to Africa. Si on vient de l'Asie-Pacifique pour aller vers le continent africain.
Ah, absolument. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons, c'est pour survivre, pour bien vivre, qu'on a développé des institutions, une structure légale qui permet à des compagnies de s'installer chez nous pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire vers l'Afrique, comme on dit, un bridge towards Africa. Et c'est ce que nous proposons, c'est ce que nous avons à offrir, c'est une stabilité politique, atmosphère agréable, en toute sécurité, un cadre légal au niveau international. Et ça, c'est déjà un succès, ça se passe déjà. Nous avons déjà environ, si je me trompe pas, environ 100 entreprises australiennes qui ont déjà un siège à Maurice pour profiter des avantages que nous avons vers les pays africains. Nous sommes membres de la SADC, membres de la COMESA, membres de beaucoup d'organisations, d'institutions africaines. Donc, nous avons des DTAs, des Free Trade Agreements qui permettent à une compagnie qui s'installe à Maurice d'en profiter aussi.
Donc, un bon bilan de ces rencontres du jeudi 30 octobre à Melbourne.
Absolument, qui m'a aussi appris à connaître beaucoup de personnes, à, comme on dit, interact. Au fait, c'était
le
un
networking.
Dialogue. C'était un dialogue. Le nom a été très bien choisi.
Allons profiter de l'occasion maintenant pour vous présenter à la communauté francophone d'Australie. Peut-être d'abord, parlons de votre parcours professionnel.
Mon parcours a fait des zigzags. J'ai fait un master en biologie marine. Donc, je suis par profession biologiste marine. Mais après 5 ans dans le service civil, j'étais dans la section recherche du ministère des pêches. J'ai fait 5 ans dans ce ministère, dans les recherches. J'ai préféré faire autre chose parce que je trouvais que le service civil était assez restreint dans les possibilités de recherche, à l'époque certainement. Donc j'ai fait autre chose. Je me suis mariée, j'ai eu un fils. Il y a eu un break, comme on dit, dans ma carrière. Et quand je suis revenue à Maurice, j'ai fait autre chose que la biologie marine. J'étais dans l'hôtellerie, j'étais par exemple assistante du directeur de l'hôtel maritime, vu que j'avais étudié en Allemagne. Ah, j'ai oublié de vous le dire, j'ai fait mes études en Allemagne. Et donc je suis restée dans la restauration, puisque mon frère lui-même, il a 3 restaurants à Maurice, le Indian Happy Raja Restaurant. Donc quand je suis rentrée, c'était clair que j'allais épauler mon frère dans l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bon, j'ai été à un certain moment advisor au ministère de la Pêche, puisque je connaissais très bien ce secteur. J'ai été après advisor au ministère des Affaires étrangères et c'est de là que j'ai été choisie pour être ambassadeur en Allemagne. J'ai fait 4 ans là-bas. En revenant, j'ai été encore une fois pendant un moment dans l'entreprise familiale et puis maintenant je suis chez vous. En Australie.
Revenons un petit peu sur cette carrière diplomatique. Donc, vous étiez nommée ambassadrice de Maurice en Allemagne.
Oui.
Et quels ont été un petit peu les grands moments pour vous? Parce que si vous aviez fait des études en Allemagne, vous maîtrisiez l'allemand parfaitement.
Oui, ça a été un grand avantage, si vous voulez. Ça m'a permis de communiquer, de mieux communiquer, de mieux dialoguer. Et ça a été aussi, pour moi, j'ai appris beaucoup pendant ce temps-là. Et même à l'époque, en Allemagne, j'ai tout de suite compris que, comme une petite île, il fallait que je me retrouve dans mes groupes, c'est-à-dire dans la SADC, par exemple. J'ai travaillé beaucoup au sein du groupe africain en Allemagne, de l'Union africaine et surtout de la SADC, et qui nous a permis d'avancer avec la Chambre de commerce, dans plusieurs institutions. Et ça a été une très grande expérience. J'ai d'ailleurs été nommée ambassadrice de l'année par le magazine diplomatique allemand en 2013. Et je suis retournée en 2014.
Parlons maintenant de votre rôle comme High Commissioner de Maurice à Canberra en Australie. Parlons des relations commerciales et économiques entre Maurice et l'Australie en ce moment.
Nous avons déjà plusieurs compagnies australiennes qui ont le siège à Maurice pour les raisons que j'ai mentionnées, les conditions de taxes, d'une loi, d'une structure légale bien faite, des institutions solides, d'une atmosphère politique aussi très stable. Nous avons déjà plusieurs compagnies minières qui sont installées à Maurice, qui fonctionnent, enfin, comme on avait parlé tout à l'heure, un bridge towards Africa. Mais je pense que nous sommes toujours pas assez connus pour ce que nous pouvons offrir. Dans la section éducation, nous avons par exemple le prestigieux Curtin University qui est déjà établi à Maurice, ce qui permet par exemple aux étudiants africains de venir à des cours réduits, venir étudier dans une université prestigieuse à des cours réduits dans une atmosphère stable et agréable, donc qui est mutuellement un avantage pour l'université de Curtin et pour l'île Maurice, bien sûr, et pour l'Afrique, naturellement. Donc, nous pensons pouvoir développer d'autres communications, d'autres entreprises de ce genre qui seraient d'un avantage mutuel pour les deux pays.
Parlons de l'Indian Ocean Rim Association. Maurice est un des pays fondateurs. Où en est-on en ce moment depuis la création? Je crois que c'était en 1997.
Du côté maritime, nous avons beaucoup à faire avec l'Australie, la sécurité. Le siège est à Maurice d'ailleurs. Donc j'ai eu une petite réunion avec le directeur. Il y a encore beaucoup à faire du côté maritime. Les différents pays auraient pu avoir beaucoup plus d'activités que je pense que nous allons voir dans le futur.
Y a-t-il des projets de visite, peut-être des visites ministérielles de ministres mauriciens qui viendront en Australie en 2026 peut-être?
Vous me posez une question la même question qu'un ami m'a posée. Et je lui ai répondu, d'ailleurs c'est un membre de la diaspora mauricienne, et je lui ai répondu, mais écoutez, c'est à vous de me donner une bonne raison. Je compte beaucoup sur la diaspora mauricienne qui est tellement bien établie en Australie, qui occupe des positions très très importantes ou qui est dans la société australienne pour me guider et pour créer justement des raisons pour des visites pareilles. Donc voilà ma réponse. Comme je suis très nouvelle ici, ça fait à peine 2 mois que je suis ici. Donc je suis encore à apprendre, à connaître mon environnement, et je compte beaucoup sur les Mauriciens qui sont établis ici. D'ailleurs, j'ai rencontré déjà 3 Mauriciens. Ils ont toujours des choses intéressantes à me dire, à expliquer. Et ben voilà. Je compte sur vous.
Je pensais plutôt sur le plan du tourisme pour peut-être encourager les gens à penser à cette route Australie, Maurice, Europe. Très peu de gens connaissent cette idée de voyager de l'Australie
avec vous.
Pour faire escale à Maurice.
Il y a du boulot, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Je suis d'accord avec vous.
Et que diriez-vous aux Australiens qui nous écoutent pour découvrir l'île Maurice?
Je vais dire aux Australiens que s'ils viennent à Maurice, ils vont trouver des plages, ils vont trouver une petite île magnifique, mais qu'il y a autre chose qui serait peut-être intéressant pour eux, c'est l'histoire que nous partageons avec l'Australie, qui est absolument extraordinaire. C'est quelque chose aussi que je trouve qu'on devrait développer à Maurice pour faire connaître l'histoire commune que nous avons. On parle très peu de Matthew Flinders, par exemple, ou de Baudin, ou de tout ce qui s'est passé pendant l'époque où, par exemple, l'Australie était encore dans son enfance. Tout le sucre, tout le rhum venait de Maurice. Il y a toute l'industrie sucrière a été au fait démarrée par la technologie mauricienne, les Mauriciens qui sont venus en Australie à l'époque. C'est extraordinaire l'histoire que nous partageons. D'ailleurs, puisque là le 11 novembre. Ben écoutez, j'aurais une pensée pour les Mauriciens qui sont venus s'établir en Australie et qui ont rejoint le militaire australien et qui ont perdu la vie à Gallipoli. Donc, il y a une très grande histoire à expliquer qui rendrait une visite à Maurice beaucoup, beaucoup plus intéressante, je trouve. C'est quelque chose qu'il faudrait développer.
Et plus spécifiquement, peut-être un message pour la diaspora mauricienne en Australie?
Vous parlez toujours tourisme. Mais ça, encore une fois, je vais vous dire que c'est une chose qui serait fantastique pour la diaspora aussi, de revoir un peu l'histoire de leur pays à l'époque, de faire une visite à Maurice, pas seulement pour rencontrer des amis ou de la famille qui est toujours là, mais aussi qu'on puisse leur offrir la possibilité de connaître l'histoire que moi-même, il y a très peu de temps que je ne connaissais pas moi-même.
Sarojini Srinivasan, merci d'être venue nous rendre visite à SBS et bonne continuation.
Merci beaucoup Jean-Noël, merci de m'avoir invité.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous écoutez le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les propriétaires traditionnels à Nangu ont célébré les 40 ans de la restitution du parc national d'Uluru Kata Juta à leur peuple. Cette restitution a marqué un tournant pour les droits fonciers des aborigènes d'Australie et une reconnaissance forte du lien durable entre les Premières Nations et leur pays. Les célébrations officielles ont notamment inclus un voyage à Londres pour une délégation de 9 propriétaires traditionnels Arnangu qui ont rencontré le haut-commissaire au Royaume-Uni, Stephen Smith, et le roi Charles dans le cadre des commémorations officielles. Reportage de SBS News. Uluru et Kata Juta comptent parmi les paysages les plus emblématiques d'Australie centrale, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et ont longtemps été des sites sacrés du peuple Arnangu. Ils ont été connus sous d'autres noms pendant des décennies, après que des explorateurs européens eurent rebaptisé Kata Juta, Mount Olga et Uluru Ayers Rock, en hommage au secrétaire en chef de l'Australie-Méridionale, Sir Henry Ayers. En 1985, les propriétaires traditionnels d'Uluru se sont retrouvés au cœur d'un moment historique annoncé par le gouverneur général de l'époque, Sir Ninian Stephen.
I now place in the hands of the Uluru Kata Juta Aboriginal Land Trust the title deeds.
Cette rétrocession marqua un tournant pour les droits fonciers des aborigènes en Australie et une reconnaissance forte du lien durable entre les Premières Nations et leur pays. Elle était le fruit d'années de lobbying du Conseil foncier central et du Conseil Pitchan Jatjara pour la reconnaissance des droits des propriétaires traditionnels, une démarche à laquelle le gouvernement du territoire du Nord s'était constamment opposé. En 1985, le ministre en chef, Ian Tuxworth, affirma que le gouvernement du territoire devait exercer le contrôle et que le tribunal foncier du commissaire du territoire devait statuer sur la propriété même si Uluru avait été exclu de la loi sur les droits fonciers des aborigènes du territoire lors de sa création en tant que parc national d'Uluru Kata Juta en 1977.
And he's also not made any determination that there are traditional owners to the Uluru area. Now, until those things are settled, we are saying that the Aboriginal Land Rights Act has been subverted and changed for political convenience.
Le gouvernement du territoire avait donc fait pression pour que le titre lui soit transféré, ce qui, selon le Musée national d'Australie, aurait entraîné une réduction du titre pour les Arnangu et l'absence de contrôle sur la gestion du parc. Le gouvernement Hawke et le gouverneur général étaient d'un avis contraire. Sir Stephen a déclaré que la situation serait rectifiée par la rétrocession, un accord prévoyant que les propriétaires traditionnels relouent le parc au gouvernement.
The trust, by the deed which is to be handed over today, acquires inalienable
Australian law to this place which is so special to its members, and at the same time recognising the special significance of Uluru to all Australians and the appropriateness of it remaining as an Australian National Park, the Trust will today lease it back to the Australian National Parks and Wildlife Service as a national park.
40 ans plus tard, l'anniversaire de cette rétrocession historique est commémoré par un événement public au Talinguru Nya Kun Yetjiaku, la zone d'observation du lever du soleil à Uluru, en présence du Premier ministre Anthony Albanese. Les premières commémorations ont eu lieu quelques semaines plus tôt, début octobre, à l'Australia House de Londres. Le haut-commissaire du Royaume-Uni, Stephen Smith, a déclaré que l'événement officiel rassemblait 9 propriétaires traditionnels, des dignitaires et le roi Charles, qui avait visité le site en 1983 lors de sa tournée en Australie avec sa femme de l'époque, la princesse Diana. Il semble n'avoir jamais oublié l'expérience.
I remember when I went, at the different times of day was the extraordinary delight.
Harry Wilson faisait partie des représentants Arnangu qui ont fait le voyage au Royaume-Uni.
As you can see, the picture of Uluru on the screen here and sort of brings us into tears and sadness and happiness as well.
Stephen Smith affirme que l'événement lui-même était important et pas seulement parce que c'était la première fois en 7 ans que le roi Charles visitait Australia House.
Normally the palace looks at 50 or 100 year anniversaries. So the fact that we're doing this on the 40th anniversary tells you that this was something special.
Anthony Albanese a prononcé quelques remarques lors du service officiel à Australia House via un message vidéo.
It was a milestone in Aboriginal land rights in Australia and a powerful moment in the story of our continent. Around the world, Uluru is instantly recognised as Australia. In Australia, it stands as a monument to a people's love of country and their determination to see justice done.
Le haut commissaire australien Stephen Smith a également pris la parole.
The Uluru have lived in the area around Uluru and Kathchuka for more than 30,000 years. These places are among the most recognised, deeply significant living cultural landscapes where knowledge, language, song and ceremony have been passed down across countless generations.
Tout comme il y a 40 ans, lorsque des chants et des danses traditionnelles ont été exécutés lors de la restitution, l'anniversaire a également inclus des performances, cette fois par les 9 propriétaires traditionnels Arnangu, dont certains n'avaient jamais visité le Royaume-Uni auparavant. Sammy Wilson dit que la chanson vient de leur grand-mère et de leur grand-père et parle de l'importance du rocher.
The place has always been ours from long way back. Our land is sacred.
Ce reportage de SBS News de Deborah Grauk, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et enfin, l'émission, un rappel des titres de ce mardi 4 novembre. La présidente du comité international de la Croix-Rouge affirme que l'histoire se répète au Darfour, au Soudan, après les informations faisant état de massacres lors de la chute de la ville d'Al-Fasher aux mains des forces de soutien rapide la semaine dernière. La décision du Parti national d'abandonner leur engagement de neutralité carbone n'a pas convaincu Barnaby Joyce de rester au sein du parti. Et puis les analystes ont écarté la possibilité d'un nouvel allègement des prêts hypothécaires de la part de la Reserve Bank ce mardi après-midi. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.